Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano, nous sommes mercredi et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ohana. À mes côtés, toujours Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier.
Salut Hermano, salut tout le monde.
Et puis, nous avons encore la chance d'avoir notre invité et eux. Salut Lucille.
Salut Hermano, salut Olivier. Salut tout le monde.
Lucille, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on revienne sur une définition, une question qui peut paraître un peu bête, mais le sommeil, c'est quoi ?
Hermano, le sommeil, c'est quand tu fais dodo.
Plus sérieusement, le sommeil, c'est quoi ? Quelle est la définition du sommeil pour toi, Lucille ?
Pour moi, le sommeil, c'est vraiment indissociable, en fait, c'est de la journée continue. C'est une question aussi de pouvoir être en forme aussi dans le court terme et dans le long terme. Dans le sens où, si le sommeil existe, c'est qu'il a une raison d'exister, ok ? Si on est éveillé le jour, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc, pourquoi on dort ? Pour plein de raisons, pour emmagasiner les informations qu'on a eues pour la journée, pour aussi la grande faculté de récupération musculaire qu'a le sommeil, pour évacuer un peu tout ce qui s'est passé pendant la journée, etc. Donc ça a vraiment une fonction de récupération et de réparation et de renfort. Le sommeil aussi, et on est un peu dans la période, a une grande fonction dans le renforcement du système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'on dort. Et souvent, voilà, c'est ce balancier donc dont je vous parlais hier, qui est entre l'horloge biologique qui tourne toutes les 24 heures et aussi tout ce qu'on va faire pendant la journée qui va influencer notre sommeil. Donc c'est vraiment ça, essayer de trouver cet équilibre entre ce qu'on peut faire la journée.
J'ai bien la définition en tête, donc effectivement c'est faire dodo, c'est dormir, mais pas que, et surtout à quoi ça sert de dormir. Une question aussi, est-ce que les fameuses siestes, qui sont très souvent recommandées, surtout dans nos journées de fou, rentrent dans cette fameuse définition du sommeil ? Quel intérêt de faire ou de ne pas faire la sieste ?
Souvent, on a tendance justement à résumer la sieste comme la sieste. D'accord, donc il y a une catégorie de sieste, alors qu'en vérité il y en a deux voire trois. Pour vous donner un peu une idée, entre 18 et 40 ans, on devrait dormir entre 7h et 9h par nuit. Donc je sais pas si vous êtes dans ces tranches-là ou si les triathlètes arrivent à faire ça.
Mais ça, Olivier, il est en dessous des 18 et moi je suis au-dessus des 40, donc c'est bon, on est dans la moyenne.
Ok. Très bien. Donc ça fait que donc soit on arrive à justement avoir un sommeil qui est de cette durée-là, donc la nuit, soit justement avec notre travail, avec les entraînements qui s'accumulent, etc. On a besoin d'un certain temps de récupération dans la journée, ce qu'on appelle la sieste. Okay. Sachant que la sieste, elle peut avoir plusieurs profils. Ça peut être soit une sieste qu'on va faire pour justement récupérer entre deux périodes, c'est-à-dire souvent c'est après le repas du midi ou de 15h pour certains, donc c'est souvent dans cette tranche-là, entre midi et 15h, on va dire.
On dit 15h parce que c'est l'heure du repas probablement italienne d'Hermano qui était en train de terminer son repas quand on a commencé l'enregistrement du podcast. Petite parenthèse.
Et c'est souvent pendant cette période-là, et cette sieste-là, elle a plus tendance à être récupératrice. Donc on relâche les muscles, on relâche le mental. On s'endort, attention à pas dépasser la demi-heure. Pourquoi on dit ça ? C'est pour éviter de rentrer dans un stade de sommeil qui est trop profond. Et donc, on rentre dans le stade léger. Si on reste dans cette tranche-là de 30 minutes, on aura moins du mal, je dis pas qu'on aura pas de mal, on aura moins de mal à se réveiller après que le réveil sonne. Okay ? Si on va au-delà des 30 minutes, on rentrera dans un sommeil qui est dit un peu plus profond. Et comme son nom l'indique, il est plus difficile d'en sortir. Donc ça, c'est la sieste récupératrice. Après, il peut y avoir des siestes qui permettent d'anticiper une période où on va moins dormir. Exemple, ceux qui travaillent de nuit, par exemple, ils vont faire une sieste avant d'aller dormir pour pouvoir être en forme pour après le travail qu'ils vont faire. Donc ça, c'est une deuxième type de sieste. Et troisième type de sieste, c'est celle qui dure justement plus de 30 minutes et qui va être compensatoire. Exemple, quelqu'un qui travaille de nuit, c'est souvent eux qui sont concernés, ou ceux qui enchaînent beaucoup d'entraînements, ou ça peut être aussi les week-ends, c'est souvent les week-ends qu'on fait les siestes compensatoires. Elles vont durer entre 30 minutes et 2 heures, et c'est le temps d'un cycle complet de sommeil. Donc là, ça a d'autres vertus que les siestes de récupération de 10 à 30 minutes.
Et tu dis de 30 minutes à 2 heures, est-ce que c'est quelque chose qui va dépendre en fonction de chacun ?
Oui, bien sûr, c'est assez aléatoire. Souvent, un cycle de sommeil, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Le sommeil, pour moi, c'est un terrain de jeu, d'accord ? Où en fait, voilà, c'est un peu essayer de voir comment je dors, comment je suis réglée, qu'est-ce qui impacte sur mon sommeil, etc. Et une des premières questions à se poser, justement, c'est est-ce que je suis plus du matin, plus du soir ? Et aussi, combien de temps dure mon cycle de sommeil pour après savoir est-ce que je dois faire, par exemple, 4 cycles de 2 heures, c'est-à-dire 8 heures, ou si je peux faire 4 cycles de 1h30, donc 6h30. Il y en a, après 6h30 de sommeil, ils seront en forme parce qu'ils ont rempli leurs 4 cycles de sommeil. Par contre, il y en a qui doivent faire 8 heures parce que... Ils doivent aussi remplir le cycle de sommeil, mais qui sont un peu plus longs.
Mais donc, une nuit complète, c'est systématiquement 4 cycles de sommeil.
C'est souvent ça, en fait, parce qu'en fait, la structure du sommeil pendant la nuit change. C'est-à-dire que le premier cycle du sommeil, on va avoir beaucoup plus de sommeil léger et profond. D'accord ? Et au plus on va avancer dans la nuit, au plus on va avoir ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et chaque stade de sommeil a son importance. Et au plus on va rentrer dans le stade du sommeil paradoxal, au plus on va avoir un travail en profondeur. Donc c'est pour ça que les nuits courtes, le corps, il avait entamé un travail, et puis finalement, il peut pas aller jusqu'au bout, de la récupération, de la régénération, de tous les déchets à éliminer. Et il est coupé au milieu et il s'est dit pourquoi tu te réveilles avant alors que moi j'avais encore besoin de faire ce travail-là de récupération, de régénération. Voilà, donc souvent c'est 4 pour vraiment aller au plus possible dans la récupération.
Donc c'est 4 cycles, mais chacun des cycles est différent alors. Il sera unique et apportera quelque chose de différent.
Exactement.
Au niveau de la récupération.
Alors là, tu nous parles de 4 cycles, donc de la durée à peu près moyenne et normale pour le sommeil. On a vu qu'avec la sieste, on peut quelque part améliorer ce sommeil de la nuit, donc rajouter un petit bout de cycle pour préparer notre corps à se régénérer et donc mieux le préparer à dormir la nuit. Qu'en est-il quand on est privé de sommeil ou alors quand on va diminuer nos cycles de sommeil ? Je pense par exemple à certains sportifs qui doivent pour des raisons X ou Y, réduire leur durée de sommeil pendant un certain laps de temps. Je pense même, tout bêtement, pour sortir du sport, mais aux parents, aux mamans. Voilà, moi, je viens d'avoir un 4e enfant. Mon épouse se réveille régulièrement pour donner le sein à bébé. Donc, elle a un sommeil qui n'est pas forcément de bonne qualité. Et elle est coupée parce que elle se réveille quand bébé, lui, a fini un de ses cycles de sommeil et qu'il a faim. Donc, qu'en est-il justement de ces privations de sommeil ou de ces frustrations de sommeil, j'ai envie de dire ?
Eh bien, justement, ce sont en fait des périodes qu'on peut anticiper en amont, d'accord ? Dans le sens où on peut aussi faire ce qu'on appelle des réserves de sommeil, d'accord ? Donc, c'est valable aussi pour ceux, par exemple, qui ont fait le Vendée Globe ou ceux qui ont en fait une forte intensité de dépenses énergétiques où ils savent que pendant X jours ou X heures ou des années du coup dans le cadre des mamans avoir cette dette de sommeil là, donc ça peut être les ultra trailers aussi, les triathlètes aussi sont pas mal dans l'histoire, donc on va faire cette réserve là de sommeil. C'est-à-dire qu'en amont...
Alors attends, juste pour réagir, une question toute bête, quand on fait des réserves au niveau énergétique, on se voit, on commence à prendre un peu de bedaine. Quand on fait des réserves de sommeil, on est quoi ? On est tout mou pendant les jours où on dort plus, c'est ça ?
Alors déjà, donc, en fait, ce sont des études qui ont été faites notamment chez les basketteurs. Et en fait, on leur demandait de passer un peu plus de temps dans le lit. Et au fur et à mesure qu'ils passaient un peu plus de temps dans le lit, ils passaient plus de temps à dormir. Et ça, c'était en amont, en fait, dans une compétition internationale, un championnat du monde d'Europe, qui leur demande en fait une dépense mentale et physique assez conséquente. Et il y en a qui sont plus ou moins aussi sujets à ce genre de stress, etc. Donc ça leur permettait en fait de faire des réserves de sommeil en amont et d'aller piocher dans ces réserves-là. Comme ça, en le jour J ou pendant cette période-là, ils vont piocher dans ces arbres pour après passer la période le mieux possible. Dans le cas des mamans et des enfants bas âge, c'est vrai que après il y a le papa aussi qui peut se lever la nuit, hein, mine de rien. Voilà.
Ouais, c'est un peu dur de donner le sein quand même. Hein. Ouais, dès qu'on passe au biberon, je me réveille.
Je suis une femme.
Là,
peut-être
sein,
que vous aviez interrogé un homme, il vous avait pas dit la même chose, mais là, je défends la femme. Voilà.
Ah, je défends aussi, mais je te dis, je me lève pour mettre le bébé au sein, mais par contre, je peux pas l'allaiter. Donc du coup, Lucille, tu disais que il est possible de faire des réserves de sommeil, et on s'est rendu compte que plus les, notamment dans l'étude avec les basketteurs, plus les gens passent de temps dans le lit, plus ils vont dormir, donc plus ils vont dormir, plus ils vont pouvoir après faire des réserves de sommeil et utiliser ces réserves de sommeil quand ils en auront besoin.
Exactement.
Donc ça, c'est dans le cadre où on va bien gérer son sommeil, c'est-à-dire soit on dort comme il faut et on est efficace en journée, soit on fait des réserves de sommeil avant pour après les utiliser dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir pour les mamans. Mais qu'en est-il si on est privé de sommeil ou si on est frustré de sommeil et qu'on n'a pas pu faire ses réserves?
Après, ça va se faire, c'est un travail quotidien, on va dire. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée pour soit récupérer un petit peu ce sommeil-là, que ce qui existe aussi, donc je suis pas une spécialiste du sujet, mais ça s'appelle le sommeil polyphasique. Donc c'est souvent par tranche de 2 heures, donc on va dormir 2 heures, et puis après on va faire son activité, et puis on va redormir 2 heures, etc. Donc, c'est quelque chose aussi qui est possible. Après, dans le long terme, on n'a pas franchement de recul par rapport à ça. Souvent, les gens, ils le font quelques temps, mais après, on n'a pas de recul à long terme. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ont des privations de sommeil au quotidien, c'est que dans leur quotidien, il y a quelque chose qui, dans la gestion de leur emploi du temps, est assez en déséquilibre. Justement, avec cette balance-là dont je parlais du coup tout à l'heure, entre la balance circadienne, donc la mélatonine qui se régule, etc., tout ce qui est horloge circadienne, et après tous les facteurs, donc la lumière, hyper important, le sport, les relations sociales, le travail, etc.
Et les écrans peut-être, ou tant que
ouais, en fait, c'est ça, c'est dans la lumière.
Super, bah, merci encore pour toutes ces précisions. On a parlé un petit peu des compétitions internationales pour l'étude sur les basketteurs. Bah, ce que je te propose, c'est que demain, on revienne plus sur le sujet de l'international, notamment avec le jet lag, donc le décalage horaire, et l'effet que peut avoir le décalage horaire sur le sommeil. Puis peut-être pour finir, on verra comment améliorer les petits trucs et astuces pour éviter les impacts du jet lag.
C'est parfait.
C'est nickel.
À demain.
À demain.
Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.